lendemain des émeutes et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la ville, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Des émeutes et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite.
Alors bienvenue pour ce tout nouveau Canu Info du jeudi, c'est la rentrée pour nous, on espère que pour vous ça l'est pas forcément, mais j'ai bien peur que malgré tout vous fassiez partie de la masse qui est retournée au travail ou à l'école ou aux études ou en formation ou je ne sais quoi d'autre. Et donc ce soir on va faire un petit tour de l'actualité. Nous allons commencer, ça va pas vous étonner beaucoup, par la situation Israël-Palestine. Et puis on parlera aussi de ce qui se passe en Syrie, en Égypte. On parlera de répression, de censure en Tunisie et en Russie. On parlera de ce qui se passe en Thaïlande avec le travail forcé des pêcheurs. On parlera un petit peu de capitalisme. Et puis sur une partie plus locale, Laurent nous parlera du FN à Paris. Et je vous parlerai d'un peu d'agroalimentaire et d'huile de palme. Et puis on terminera par une grosse page écolo-environnement, on parlera de nucléaire, on parlera de la résistance dans les explorations minières, puis on parlera aussi de Peugeot qui aime beaucoup le diesel.
Oui, on va ouvrir donc ce Canu Info comme par habitude, hein, quelque part, par la situation israélo-palestinienne. On va déjà d'ailleurs vous annoncer tout de suite que je crois à partir de la semaine prochaine, tu peux me confirmer si c'est bien ça, nous faisons tous les débuts du Canu Info, on diffusera un reportage ou une interview réalisée en Israël ou en Palestine cet été, puisque nous avons fait un petit voyage là-bas, pour vous présenter, pour écouter des gens qui nous parlent de la situation et qui se battent pour que la situation évolue.
Voilà, donc ça durera, n'est pas encore tout à fait fixé, mais 5-6 semaines, voilà, à chaque fois, des petits morceaux pour vous présenter les discours de quelques personnes.
Oui, alors du coup on va quand même faire des infos aujourd'hui là-dessus. On va commencer par parler des tensions, hein, parce que depuis 2-3 jours il y a à nouveau pas mal de tensions à Jérusalem-Est, notamment sur la mosquée Al-Aqsa. Donc la mosquée Al-Aqsa, elle se situe sur l'esplanade des mosquées, là à l'intérieur de Jérusalem. Bon, vraisemblablement, il y a eu des tensions entre certains juifs et les Palestiniens qui ou les musulmans tout court, qui viennent prier dans la mosquée. Donc du coup, l'armée est intervenue avec gazage des Palestiniens, pas des autres, bien évidemment. À l'intérieur de la mosquée, des gens ont été arrêtés, ce qui arrive pas souvent. Alors faut dire qu'il y avait eu quand même, il faut le dire. Alors ça, c'est arrivé hier matin. La veille est intervenu quelqu'un qui est plutôt radical au niveau de l'islam, Cheikh Raed Salah, et qui est venu parler donc à la mosquée. Qui est venu faire un prêche et qui a un petit peu enflammé aussi les foules, ce qui a peut-être énervé Israël et les forces de sécurité. Donc voilà, il y a quand même eu 3 Palestiniens blessés. Et ça rappelle que cette zone est très compliquée, hein, puisque alors, les touristes n'ont pas vraisemblablement le droit d'y aller, sauf à certains moments. C'est un peu compliqué pour aller sur l'esplanade des mosquées. Il faut dire qu'il y a quelques années, des juifs extrémistes avaient fait des attentats. Donc voilà, la situation reste tendue sur ce lieu qui est saint pour ces deux religions. Donc ce qui complique bien évidemment la donne. Dans un état qui n'est bien évidemment pas laïque. Alors, on va un peu plus loin, on va à Jéricho, cette fois dans les territoires palestiniens. Jéricho qui a le droit à l'occupation israélienne, comme une partie de la Cisjordanie. C'est arrivé lundi, c'est un truc un peu habituel, hein, c'est des Palestiniens qui ont construit leur maison il y a une dizaine d'années, et dont l'armée israélienne vient détruire la maison parce que, notamment, elle est souvent déclarée comme illégale. Il faut dire que quand les Palestiniens qui sont dans une zone qui dépend de l'autorité israélienne, quand ils font des demandes de permis de construire aux autorités israéliennes, on leur répond non. Donc du coup, comme ils vivent là, il faut bien qu'ils construisent quand même leur maison. Donc les maisons sont souvent illégales à cause de cette raison-là, parce que les autorités israéliennes refusent de leur donner des permis de construire. Ce qui arrive souvent hein, à Jérusalem-Est. Alors là, c'est pas du tout à cet endroit-là, c'est à Jéricho, mais ça concerne quand même cette famille. Donc les soldats sont arrivés tôt le matin, comme d'habitude, habillés aussi un peu en Robocop. Hein. Ils ont viré de force la famille, donc ça fait 12 membres, 12 Palestiniens qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain, après la destruction de leur maison et de la grange qui était associée à leur maison. La grange était de construction récente, il y a 4 ans, et il n'y avait pas de notification préalable de destruction, comme c'est censé être le cas pour une destruction. La destruction par l'armée israélienne est donc illégal, ce qui n'empêche pas l'armée de le faire, bien évidemment. Voilà, le propriétaire rappelle qu'on ne voit pas comment il pourrait y avoir des négociations de paix si l'armée israélienne continue de venir détruire les maisons palestiniennes. Ça, on est bien d'accord avec lui. Ça rappelle aussi que Jéricho se situe dans la vallée du Jourdain, et que la vallée du Jourdain, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les colons qui aiment bien s'installer dans ce coin, les colons juifs. Donc du coup, voilà, l'État israélien qui soutient quand même plus ou moins directement ces colons en empêchant les Palestiniens de vivre correctement dans cette zone. Voilà ce qui est arrivé donc lundi à Jéricho.
Alors on va partir maintenant en Tunisie, on va parler de deux rappeurs, Aladin Yacoubi et Ahmed Ben Ahmed. Alors ils ont été condamnés à 21 mois de prison en raison d'une de leurs chansons. C'est une chanson qui s'appelle Boulissia Club, ça parle des flics, évidemment pas avec gentillesse. Ils ont été condamnés à l'issue d'un procès pour lequel ils n'avaient pas été prévenus, hein, ils étaient au courant de rien. Donc ils ont été condamnés pour outrage à des fonctionnaires, atteinte aux bonnes mœurs et diffamation. C'est leur avocat lundi qui a appris par les médias qu'ils étaient condamnés. Alors c'est un jugement avec exécution immédiate, ce qui veut dire que les deux rappeurs peuvent être incarcérés à tout moment. Alors Aladin, lui, il a déjà été condamné à 2 ans de prison ferme par contumace en mars. Finalement, au mois de juillet, sa peine avait été commuée à 6 mois de prison avec sursis. Bon, ben, malheureusement pour lui, ça n'a pas duré longtemps ce sursis. Alors, pour détailler un peu cette peine, il y a 1 an pour outrage à des fonctionnaires, 6 mois pour calomnie, 3 mois pour atteinte aux bonnes mœurs, et donc les 6 mois de sursis précédents, tout ça, ce qui fait que ils sont en cavale, hein, ils sont très inquiets de ce qui peut se passer. Ils ont été interpellés le 22 août lors du Festival international d'Hammamet. Le problème, c'est que c'est pas les seuls. Actuellement, on pourrait parler par exemple de Mourad Merezi, c'est un caméraman, il est en détention provisoire dans l'attente de son procès. Alors en août, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait son travail, il a filmé un artiste, Nasreddin Chili, qui est lui aussi emprisonné. Nasreddin, il a jeté un œuf sur le ministre de la Culture, ça n'a pas plu. Ils ont donc été arrêtés le 18 août dernier. Ils sont accusés de complot contre un fonctionnaire, c'est quand même assez énorme. Ils ont couru jusqu'à 7 ans de prison. Voilà, il y en a plusieurs comme ça qui ont eu un certain nombre de soucis, dont le militant Jaber Medji. Alors lui, il est aussi connu parce qu'il est un militant athée. C'est assez difficile pour lui. Lui, il a été condamné en mars 2012 à 7 ans et demi de prison. Donc il y a toujours du soutien qui se met en place pour essayer de le faire libérer, ce qui est pas gagné puisque a priori il va bien y rester. Et puis pour continuer un petit peu sur cette censure et cette répression, on part en Russie. Alors on rappelle, la ville de Saint-Pétersbourg accueille à partir d'aujourd'hui le sommet du G20 en présence de chefs d'État dont Monsieur Obama et Monsieur Poutine. Alors du coup, la police n'est pas restée quand même les mains dans les poches. La police de Saint-Pétersbourg a saisi une toile qui s'appelle La Lutte en français, qui représente les présidents russes et états-uniens, Monsieur donc Poutine et Monsieur Obama, nus, pourvus de sexe assez massif quand même. C'est une toile de Vera Donskaya Kilko, excusez-moi, c'est un avis tout à fait personnel, moi je suis pas très très fan, c'est une peinture très colorée, il y a des gros sexes qui ressemblent davantage à des objets, à des godes, que à une peinture minimaliste, très précise du corps de l'homme, mais ça n'empêche pas que du coup cette toile a été, quoi qu'on en pense, que cette toile a été censurée et retirée, donc la police en a profité pour fermer le musée de l'érotisme, qui exposait donc cette toile. Et c'est pas le seul fait, puisque la semaine dernière, c'est pas très vieux, la police a saisi 4 toiles dans le musée du pouvoir. Elle en a profité évidemment pour le fermer. Alors normalement, le musée devait réouvrir. C'est un musée privé, bien évidemment, qui est contesté par le pouvoir en place, par les autorités. Le musée devait réouvrir aujourd'hui. Par contre, ce que j'ai pas réussi à savoir, c'est si les toiles allaient être rendues au musée, puisque la police les a pris pour un examen complet. On se demande bien ce qu'ils peuvent examiner sur ces toiles. Alors dans ces toiles, il y avait un tableau de Constantin Altounine qui s'appelle Travesti, dans lequel on voit Monsieur Poutine et Monsieur Medvedev en sous-vêtements féminins, nus. Ça n'a pas plu du tout. Alors c'est une toile qui est pas récente, qui avait déjà eu des soucis. Il faut savoir que la directrice du musée du pouvoir, Tatiana Titova, elle a été interpellée dans la nuit de lundi à mardi alors qu'elle était en train d'accrocher des toiles à l'intérieur du musée. Elle a été relâchée quelques heures plus tard parce que heureusement elle avait réussi à envoyer un SMS à l'extérieur et donc du coup il y a du soutien qui s'est mis en place assez rapidement. Alors vous allez me dire, mais du coup oui, ok, il y a la pornographie peut-être, l'érotisme peut-être, mais y a-t-il d'autres raisons pour interdire ces toiles? Eh ben, une des lois qui est évoquée, c'est cette fameuse loi sur la propagande homosexuelle devant mineurs, je cite, ce n'est évidemment pas de moi, vous avez tous entendu parler de cette loi qui évidemment est plus que contestée et largement critiquée. Et il faut savoir que dans cette exposition, il y avait un autre tableau qui montrait le député Vitali Milonov, qui est donc l'auteur de cette fameuse loi, qui se tenait debout devant un drapeau aux couleurs arc-en-ciel. A priori, ça lui a pas plu, il a sorti des propos assez horribles et énormes, à peu près du niveau de monsieur Alain de long, mais en puissance 10, vous voyez, sur les homosexuels. Ce qui fait que là, on a de retour quelqu'un qui est en cavale, puisque Constantin Altounine, il a quitté la Russie précipitamment, il a laissé sa femme et sa fille là-bas, et il est venu en France pour demander l'asile. On espère que ça va bien se passer pour eux. C'est pas les seuls, il y en a plusieurs qui sont venus en France ces derniers temps. Ça se passe vraiment très très mal en Tunisie. Et pour dire beaucoup plus près de chez nous, on va attendre les réactions, puisque le musée d'Orsay propose une exposition à partir du 24 septembre, c'est jusqu'au 2 janvier, donc c'est à Paris, qui s'appelle Masculin Masculin, qui va proposer 200 œuvres de peinture, des peintures, des sculptures, de la photographie, 2800 à nos jours, et ce n'est que de l'homme nu, tout tout nus et parfois avec des gros sexes. Et oui, donc, on s'attend évidemment à une réaction. A priori, le directeur Guy Cocheval du musée d'Orsay a déjà reçu quelques coups de fil lui demandant exactement c'était quoi cette expo. Alors, ça rappelle l'expo du Léopold Museum de Vienne en 2012. Ça s'appelait Homme nu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait fait scandale à l'époque à cause de l'affiche où on voyait trois footballeurs nus avec leur sexe bien voyant. L'affiche avait du coup eu un carré rouge sur le sexe des joueurs, ce qui était assez ridicule. Donc là, du coup, on attend un petit peu maintenant les réactions de nos fachos bien de chez nous face à cette exposition.
Alors justement, tu parlais de la Russie, on va revenir sur le G20, puisque un des sujets du G20, ça va être la Syrie. Alors c'est pas le sujet officiel, parce que le G20 va surtout s'atteler à des problèmes économiques pour essayer d'aider le capitalisme à être encore plus capitaliste. Mais on parle aussi de la Syrie, puisque depuis le 21 août, date d'utilisation plus ou moins confirmée par le dictateur syrien de l'arme chimique, on se sert de tout ça pour essayer de faire une nouvelle guerre. Alors bien évidemment, les amis de la Syrie dénoncent le prétexte des armes chimiques pour aller bombarder. C'est notamment l'ayatollah Ali Khamenei, donc le guide suprême iranien, qui condamne ce prétexte. Il a quand même pas tout à fait tort. C'est pas facile d'être d'accord avec l'ayatollah, mais bon, il a quand même pas tout à fait tort, puisqu'effectivement, Hollande, qui se met à genoux devant Barack Obama et qui lui demande de venir l'aider à faire la guerre, est bien parti pour aller jeter quelques bombes sur la Syrie. À noter que Barack Obama donc a demandé l'approbation du Congrès pour les frappes militaires, en précisant bien qu'il voulait juste punir le régime syrien, un peu comme un petit enfant qui a fait une connerie, et surtout pas faire tomber Monsieur Assad. Je vois pas l'intérêt, moi, d'aller balancer des bombes pour pas faire tomber le dictateur. Ça reste un truc assez surprenant. En tout cas, ça entraîne des réactions intéressantes. Alors, on voit, par exemple, tous les gens qui aimaient bien Assad et qui, ces derniers mois, arrivaient pas à le dire. Tous les gens de droite, un peu, les chrétiens notamment, du monde entier, alors pas tous, mais une grosse partie, qui aimaient bien Assad, qui aimaient bien ce dictateur, et qui, maintenant, depuis quelques jours, peuvent faire comme les gauchistes, être contre la guerre et dire c'est mal d'aller balancer des bombes avec des prétextes pourris, il faut quand même le dire. Je cite des sites russes là où les chrétiens de Russie sont assez motivés, il faut dire qu'ils ont un gouvernement qui est de leur côté. Je cite, ils disent par exemple: la chute du régime de Bachar el-Assad marquera la fin de la civilisation chrétienne en Syrie, mais aussi dans toute la région du Proche-Orient. Les chrétiens de cette partie du globe sont déjà persécutés et leur vie est en danger. Après le christianisme, ce sera peut-être le tour des autres religions traditionnelles. Voilà, il y a notamment un politologue, Hajdar Kurtov, qui est soi-disant expert de l'Institut d'études stratégiques de Russie, qui parle de la fin de la chrétienté au Moyen-Orient si le régime de Bachar el-Assad tombe. C'est bien évidemment une fausse excuse, puisque Bachar el-Assad a des alliés de circonstance, notamment effectivement les chrétiens syriens, mais ce sont bien des alliés de circonstance. Il y a aussi, toujours sur cette intervention, l'idée quand même que on prend pas parti. Alors c'est notamment le cas vu d'Europe, avec l'intervention aujourd'hui insupportablement méprisante de Herman Van Rompuy, je crois qu'on prononce comme ça, donc qui est le président de l'Union Européenne. C'est un statut honorifique, hein, que ça sert à rien, mais lui il a dit, je cite, il n'y a pas de solution militaire en Syrie, la solution doit être politique et s'inscrire dans le cadre de l'ONU. Donc je rappelle que l'idée d'une solution politique, c'est de trouver une solution pour que les rebelles et Bachar el-Assad se mettent d'accord pour arrêter la guerre et reconstruire ensemble le pays en laissant Assad au pouvoir, bien évidemment. C'est ce que veut ce président de l'Union Européenne. D'un seul coup, ils aiment bien tous ces gens un peu de droite, ce dictateur Assad. Faut dire que en face c'est le bordel, hein, puisque à défaut d'avoir aidé comme il fallait le faire au début les rebelles, hein, qui étaient essentiellement des démocrates au début, en tout cas des progressistes, personne n'a voulu les aider militairement. Donc depuis ils se sont fait écraser. Et qu'est-ce qui s'est passé? La rébellion a été grossie dans ses membres par l'arrivée d'islamistes en tout genre, qui du coup sont beaucoup moins fréquentables pour le monde occidental. Et ça se comprend quand même, puisqu'ils sont porteurs d'une idéologie religieuse qu'on connaît bien, hein, c'est l'extrême droite religieuse, qu'elle soit chrétienne, islamique ou juive, elle a les mêmes fondements, les mêmes idées. Donc du coup, voilà, tout le monde est emmerdé. On rappelle que c'est pas une bonne idée d'aller bombarder la Syrie. La seule solution qui reste, c'est continuer ou commencer à donner vraiment des armes aux rebelles, quitte à choisir les bons rebelles et les mauvais rebelles. Mais il y a bien que ça qui pourrait faire quelque chose, puisque c'est pas balancer 3 bombes pour punir un dictateur sans le faire tomber qui va servir à grand chose. Et on peut dire quand même que le prix Nobel de l'hypocrisie est remporté par la France, puisque M. Hollande, qui est le président, est un va-t-en-guerre, parce qu'il est, voilà, avec la crise sur le Mali, il a lancé une guerre, il l'a gagnée, a priori, et ça l'a fait monter dans les sondages, il était tout content, il veut faire pareil en Syrie. Je pense que tous les 6 mois, il va se trouver un endroit où faire la guerre. Le problème, c'est que, dans les faits et politiquement, la France est un pays qui continue d'être anti-syrien, et anti-rébellion syrienne, puisque on rappelle que des milliers de Syriens quittent tous les jours leur pays, et la France ne les accueille pas. C'est ça qui est pas mal quand même. Donc 700 Syriens ont été accueillis en France depuis janvier dernier seulement. L'État dit qu'il y a un problème de saturation de l'infrastructure pour recevoir les réfugiés. Les associations disent que c'est pas vrai et qu'il y a une vraie politique anti-réfugiés qui est dans la digne lignée de la politique qui était mise en place par la droite, hein, une politique dite de la porte fermée, où on laisse pas rentrer ni les rebelles syriens, ni les autres, ni les réfugiés syriens en tout cas. Donc voilà, on notera quand même que l'Humanité a mis une pétition sur son site, si vous voulez dire, moi j'aime pas la guerre, vous allez le dire sur le site de l'Humanité. Voilà, c'est quand même assez mal parti, et du coup cet été a été un été quand même très déprimant pour la région, puisque on a vu les événements d'Égypte, c'est-à-dire tous les progressistes ou presque se mettre du côté de l'armée et soutenir finalement le coup d'État qui a mis de côté Monsieur Morsi. Alors la situation risque de plonger en guerre civile, et pour preuve, ce matin, une attaque à la voiture piégée contre le ministre égyptien de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, qui a survécu à la quête TAC. Mais si c'est le début de ce genre d'attentat, voilà, la situation semble très très mal partie. Donc voilà, le Proche-Orient, c'est pas très beau pour l'instant. On reparlera donc d'Israël et de Palestine dans les semaines qui viennent. Il n'y a pas beaucoup plus d'espoir non plus.
Et puis on va parler un petit peu travail maintenant, tout autre chose, puisque c'est l'Organisation Internationale du Travail, l'OIT, qui a rendu publique une étude lundi à Bangkok. Alors cette étude, elle dénonce les graves abus, je cite, sur les bateaux de pêche en Thaïlande. Alors sur ces bateaux, il y a beaucoup de migrants en situation illégale, c'est des Cambodgiens et des Birmans, et ils sont à la merci des violences et du travail forcé. Alors selon cette étude, 17% des 600 employés du secteur interrogés ont dit avoir été forcés à travailler, hein, c'est quand même beaucoup, 17%. Ils ont eu des menaces de pénalités financières, des contraintes physiques, des violences, et puis évidemment des menaces de les dénoncer comme étant des migrants clandestins. Et puis à côté de ça, il y en a qui ont expliqué aussi que les journées de travail étaient sans fin. Alors il faut savoir que ces bateaux de pêche, ils sont ravitaillés par des bateaux mères. Alors ces bateaux mères, ils se déplacent entre les bateaux, et puis les rapatrient. Alors ils ramènent tout ce qui peut servir à la fois au fonctionnement du bateau, la nourriture, au personnel. Et du coup, c'est comme ça que ces travailleurs, ces migrants se retrouvent coincés sur ces bateaux pendant des mois, sans jamais avoir une possibilité évidemment de se sauver où que ce soit, hein, parce que vous êtes en pleine mer. Donc c'est cette situation que déplore l'Organisation Internationale du Travail. Mais alors, c'est pas gagné pour que ça change. Il faut savoir quand même que la Thaïlande, c'est le 3e plus grand exportateur de poissons au monde, donc c'est un vrai business. Et en plus de ça, le pays a été inscrit sur la liste dressée par le département d'État aux États-Unis d'Amérique comme un pays à surveiller en matière de trafic d'êtres humains, hein. Donc autant vous dire que ce n'est pas vraiment sûr que cela s'arrange dans le futur. Enfin voilà, bon appétit si vous êtes en train de manger du poisson. Puis je vais continuer un petit peu avec le capitalisme. Ça se passe aux États-Unis. Alors c'est une enquête rigolote qui a été faite par l'Institute for Policy Studies, l'IPS. Alors ils ont voulu évaluer les performances des PDG les mieux payés aux États-Unis. Alors, ils ont publié cette étude fin août, et d'après cette étude, près de 38% des patrons les mieux payés aux États-Unis au cours des 20 dernières années ont mal géré leur entreprise. Alors, cet institut, c'est ce qu'on appelle un think tank, c'est-à-dire un laboratoire d'idées en français. C'est un laboratoire d'idées plutôt classé à gauche, hein, enfin ce qu'on appelle à gauche, de l'autre côté de l'Atlantique. Il a été fondé en 63 par d'anciens membres de l'administration Kennedy, d'où le côté plutôt à gauche de la chose. Son directeur actuel, John Kavanaugh, il a travaillé pour l'Organisation Mondiale de la Santé, enfin ce genre d'organisme. D'où effectivement aussi un peu la teneur de ses résultats. Alors, l'Institut s'est intéressé aux patrons qui, au cours des 20 dernières années, ont fait partie des 25 dirigeants les mieux rémunérés, selon le classement du Wall Street Journal, ce qui fait 241 patrons. Pour cette étude, l'Institut a identifié 3 cas d'échecs professionnels. Un départ contraint, suite à une décision du conseil d'administration, par exemple. Une forte amende, suite à des affaires de fraude ou de détournement. Ou tout simplement une faillite ou un sauvetage de l'entreprise, comme on a pu le voir il n'y a pas très longtemps, par les autorités publiques, hein, comme les banques, comme Goldman Sachs, par exemple. Alors, les résultats, c'était donc, je vous le disais, 38% des dirigeants ont merdé. Dans le détail, ça donne 8% qui ont été mis à la porte, 8% qui ont commis une faute donnant lieu au paiement d'une amende et 22% qui ont carrément coulé leur entreprise. Voilà, on est donc rassurés, c'est une nouvelle raison de contester les salaires des patrons, n'hésitons pas. Continuons, et puis pour finir un peu avec le capitalisme, ça touche la France, c'est le fameux classement du Forum mondial de Davos qui vient d'être publié. Alors c'est un classement qui nous sort tous les ans, évidemment les critères de ce classement sont plus que libéraux, vous vous en doutez bien. C'est une étude qui est réalisée auprès de 15 000 chefs d'entreprise dans 140 pays. Et c'est l'Humanité qui, je trouve, a fait un très très beau titre. Ils appellent ça « Bonne nouvelle, la France recule au classement du Forum mondial de Davos ». Et oui, c'est une bonne nouvelle, puisque si on recule dans ce classement, c'est que la France ne respecte pas les bons critères libéraux qui sont conseillés donc par le Forum économique mondial de Davos. C'est plutôt une bonne nouvelle, donc, parce qu'ils sont quand même assez... fort hein, quand même dans leur affaire. Ils expliquent par exemple le meilleur environnement pour l'échange de biens implique un minimum d'intervention de la part du gouvernement qui aura un impact sur les affaires. Ils expliquent aussi l'efficacité et la flexibilité du marché du travail sont très importantes pour s'assurer que les salariés sont utilisés le plus efficacement possible dans l'économie et qu'ils sont incités à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leurs tâches. Le marché du travail doit donc être suffisamment flexible pour déplacer les travailleurs d'une activité économique à une autre, le tout rapidement et à moindre coût, ainsi que pour permettre une fluctuation des salaires sans répercussions sociales. Ça rigole pas, hein, au moins c'est carré. Donc voilà, donc je vous dis, c'est une bonne nouvelle, puisque la France répond pas à ces critères, en particulier d'après le forum, il y a trop de syndicats en France, et il y a toujours un code du travail trop rigide. D'ailleurs, c'est sur cette question que la France est le plus mal notée. Donc comme l'Humanité, on dit youpi, on est très contents, c'est une bonne nouvelle.
Pas ce qu'ils mettent là-dedans, c'est dégueulasse et c'est trop bon.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Ah, on poursuit avec l'actualité nationale. Et un truc un peu marrant et sympa que je vais faire tout de suite parce que ça fait plaisir. C'était le 25 août que ça a eu lieu, c'était à Paris. Et le 25 août à Paris, sur le parvis, notamment devant le Paris de l'Hôtel de Ville, il y avait des commémorations liées à la libération de Paris. Ça avait d'ailleurs été rebaptisé pour l'occasion Esplanade de la Libération, avec un gros hommage rendu au Conseil National de la Résistance, qui fêtait ses 70 ans. Conseil National de la Résistance qu'on fête, mais qu'aucun homme politique, malheureusement, ne suit les recommandations, ce qui est bien dommage, hein, puisque c'est ce conseil-là qui a créé la Sécu, enfin pas mal de choses, qui a écrit pas mal de recommandations sur la liberté de la presse. Mais bon, vraisemblablement, on fait des commémorations, mais on suit pas les recommandations de ce Conseil National de la Résistance. Donc voilà, Il y avait aussi d'ailleurs une association de fils et de filles de républicains espagnols et enfants de l'Exode qui étaient invités à poser une bannière de la République espagnole à la tribune officielle. Voilà, donc tout un tas de commémorations. Et se sont invités quelques militants bien fachos, nationalistes, et aussi le Front National avec la personne de Valran de Saint-Just, qui est le candidat à la mairie de Paris pour 2014, qui est aussi trésorier du FN et avocat régulier de Marine Le Pen. Donc il s'est invité à la cérémonie. Alors qu'on rappelle quand même que dans le FN, il y a pas mal de pétainistes, d'anciens collabos, un des fondateurs c'est un ancien de la Waffen-SS, enfin voilà, ils ont un beau passé du mauvais côté de la barrière, on va dire. Mais bon, ça n'empêche pas d'essayer de faire de la récup politique. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'il y avait des antifas, et que les antifas sont venus et ont bouté le FN dehors. Alors certes, la police a protégé le FN et bouté aussi un peu les antifas, mais le FN n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, la deuxième bonne nouvelle, c'est que ça a énervé Monsieur de Saint-Just, puisque il a mis sur son blog ou un truc comme ça, je cite, « Un État démocratique ne peut tolérer l'existence de tels groupes et je vous demande de décider officiellement de leur dissolution dans les mêmes conditions utilisées par vous pour des dissolutions récentes. » Il parle des petits groupes de fachos qui ont été dissous et qui vraisemblablement il apprécie. Ces groupes sont par exemple Action Antifa Paris-Banlieue, Antifa 75 et La Horde. La Horde, c'est un site internet d'information antifasciste que je vous conseille d'aller voir, il y a des informations. Et alors c'est, je trouve ça assez drôle qu'il ait demandé la dissolution des gens qui l'ont embêté. On rappelle que c'est grâce aux militants Antifa qui certes des fois font les gros bras et nous énervent un peu, c'est grâce à eux que les fachos ont peur d'organiser des trucs et d'être visibles dans les rues. Et les pays où il y a soit peu d'Antifa, donc ils ont peur et ils sont pas assez forts, soit il n'y en a pas du tout, les fachos peuvent se montrer, peuvent récolter des nouveaux adhérents. On le voit dans les pays baltes, hein, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ou presque. On le voit en Grèce, où Obdoré a des milices qui circulent, parce qu'il n'y a pas assez d'opposants contre eux. Et bah oui, c'est important que les antifas puissent jouer les gros bras et virer les fachos de nos rues et de nos quartiers. Donc voilà, ça s'est passé le 25 août à Paris.
Puis on va parler de ce qui va se passer samedi à Lyon, au centre commercial de Lapardieu, puisqu'il y a un appel de l'intersyndicale CFDT, CGT, FO et Sud à débrayer à 14h à l'entrée Vivier Merle. Alors, il y a 3800 salariés quand même, hein, au centre commercial de Lapardieu. C'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs réunis et entassés. Malheureusement, même les syndicalistes ne font pas bien d'illusions sur le nombre de personnes qui pourraient se présenter, parce qu'il faut savoir que les conditions sont évidemment pas faciles. Il y a beaucoup de pression de la barre des employeurs. Il y a un certain nombre de travailleurs qui sont en CDD, donc il y a la peur de ne pas être reconduit. Il y a évidemment des gros supermarchés du sport, des gros supermarchés alimentaires, les grosses surfaces, les grosses chaînes avec plein d'employés, mais il y a aussi un certain nombre de magasins où les gens ils sont tout seuls avec les employeurs.
Et où il n'y a pas de syndicat, donc du coup.
Et voilà, et ils sont isolés, et donc c'est difficile, hein, parce que les pressions sont très fortes, parfois un petit peu violentes, on peut bien l'imaginer, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même cette action qui est lancée, puisque ça fait déjà quelques temps qu'ils essayent un petit peu de lancer ces petits rassemblements, et ben ça finira bien par prendre de l'ampleur d'une manière toujours plus importante, parce qu'il y a quand même des gens hein, qui se déplacent, juste qu'il n'y a pas évidemment les 3800 salariés, en plus tout le monde ne travaille pas forcément ce jour-là, quoique c'est un samedi, donc on peut penser qu'en général tout le monde est à son poste. La pression est d'autant plus importante que justement on est sur un samedi, c'est-à-dire là où il est censé y avoir de fortes ventes. Donc voilà, on leur souhaite bien du courage. Ils espèrent donc pouvoir obtenir, par exemple, une restauration collective, une salle de repos commune, la gratuité du stationnement, pourquoi pas aussi une structure de garde pour les enfants, enfin des choses voilà qui simplifient aussi la vie de tout le monde. On vous rappelle que travailler dans le commerce, c'est avoir des horaires particuliers qui sont pas faciles quand vous avez des enfants en bas âge en particulier. C'est avoir des horaires coupés, hein. Par exemple, pour les travailleurs des supermarchés, c'est souvent ça, hein. Vous pouvez faire 8h, 10h et puis revenir travailler à 16h pour aller terminer à 9h ou des choses dans le genre. Donc voilà, ils demandent aussi des lieux de vie qui puissent leur permettre un petit peu de se poser, pas de se retrouver à la rue à attendre de reprendre le boulot. Voilà, vous pouvez aller les rencontrer donc à 14h samedi sur l'entrée Vivier Merle.
Tu nous parles de l'huile de palme ?
Ouais, Je vais parler de l'agroalimentaire, ça c'est quand même encore une affaire. Donc, il s'engage à utiliser dès 2015 une huile produite avec certaines garanties sociales et environnementales. Il, ses six industriels, Ferrero, Nestlé, Unilever, Vandermutel, CSM et Cerelia, et avec trois associations professionnelles, l'Association nationale des industries agroalimentaires, qu'on aime beaucoup ici, l'Alliance 7 et la Fédération nationale des industries des corps gras. Alors, la France consomme environ 130 000 tonnes d'huile de palme par an. C'est pas mal, hein, quand même. Ça prend de plus en plus de place depuis une vingtaine d'années. Il y a vraiment un développement très très fort d'utilisation de l'huile de palme dans l'alimentation. Alors, on vous rappelle que c'est critiqué, déjà au niveau santé, et puis au niveau de la déforestation, du déplacement des populations, de problèmes aussi avec la faune et la flore locale, enfin, tout un tas de problèmes qui sont rappelés ces derniers mois assez fréquemment. Et du coup, ils se sont alliés, ces industriels, pour nous créer l'Alliance française pour une huile de palme durable. Donc voilà, ce qu'ils nous promettent, c'est de développer l'huile de palme durable. Mais alors, pourquoi ils font ça ? Parce que, juste comme je vous le disais, ils veulent redorer le blason de l'huile de palme. Comme le dit Marc Toussaint, qui est le patron de CSM. Comme CSM, c'est une boîte, ils font du corps gras. En partie, ils font d'autres produits pour la pâtisserie et la boulangerie, mais sinon ils sont dans les corps gras, donc dans l'huile. Ils nous expliquent dans une interview sur le site internet d'Usine Nouvelle le 3 septembre, c'est un excellent ingrédient pour l'industrie agroalimentaire, on veut bien le croire.
Pour l'industrie, oui, pour nous, beaucoup moins a priori.
Alors, ils nous expliquent que l'huile de palme a aussi des qualités écologiques, car ses rendements sont près de 10 fois supérieurs à ceux d'autres oléagineux, mais ils reconnaissent que quand même il y a des problèmes environnementaux et quand même qu'il va falloir les résoudre. Alors, c'est pour ça qu'ils nous font des grandes promesses. Alors, ils se basent sur la RSPO, c'est la table ronde pour une huile de palme durable, qui a été créée en 2003. Ça réunit des producteurs, des distributeurs d'huile de palme, quelques scientifiques et quelques ONG. Tout ça, c'est censé discuter. Et ils ont mis en place un label. C'est ce label que donc l'Alliance veut vanter, innover, modifier et développer à tout va. Alors, le problème, c'est que ce label est largement critiqué sur ses critères d'attribution, sur des contrôles jugés bien trop laxistes. Il faut savoir que pour l'instant, il n'y a que 15% de l'huile de palme qui est dite durable par ces critères-là. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est pas forcément les nôtres, c'est pas forcément celle des écolos et des ONG. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est voilà une vraie propagande. Hein. C'est quand le capitalisme se moque de nous, il n'y a pas à dire, ils ont trouvé un nouveau truc. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, ils étaient attaqués avec ce qu'on avait fini par appeler la taxe Nutella. Donc, ils n'ont pas envie que ça se reproduise. Donc, ils essayent de montrer gage de bonne volonté. Nous, on ne les croit pas trop. C'est vraiment vert fluo comme greenwashing.
La révolution passera par le vélo, camarades. Ah, la bicyclette.
Radio Canu, la rebelle.
Voilà, donc on va parler un petit peu environnement maintenant dans ce qui est Nu Info. On va commencer par quelques petites infos radioactives, hein, parce qu'on aime bien. On aime bien ça ici à Radio Canu, qui a une électricité non radioactive. D'ailleurs, ça nous fait bien plaisir, ça. Fukushima. Ah là là, Fukushima, ça fait un an et demi que tout a pété là-bas, hein, les quatre centrales. Et c'est pas fini.
C'est l'aventure un peu. C'est ça qui est passionnant.
Ça s'arrête jamais. Toujours des fuites. Hein, le plus gros problème de Fukushima, c'est les fuites. Alors, on a quand même une bonne nouvelle. C'est que TEPCO, qui est la société qui gère la centrale de Fukushima Daiichi, a avoué ce soir avoir trouvé une des fuites. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait des fuites avec des milliers de tonnes d'eau radioactive qui allaient dans la mer. Ils ne savaient pas d'où elles venaient. Là, enfin, ils disent, depuis cet après-midi, qu'ils ont trouvé d'où venait l'eau, comment elle s'infiltrait dans la turbine du réacteur numéro 1, puisque pour l'instant, la fuite qu'ils ont trouvée, elle est sur la turbine numéro 1. Elle passait, c'est de l'eau qui descendait de la montagne, qui passait par un passage de câbles et de canalisation, qui rentre et qui après ressortait, donc radioactive, forcément, bien évidemment. Donc voilà, là, alors, si on fait le bilan, ils sont toujours embêtés parce qu'ils ont toujours quand même, malgré la découverte de cette fuite, toujours plein d'eau qui tombe dans la mer. Donc, ils cherchent des solutions. Alors, ils commencent à construire une sorte de barrière en métal. Enfin, ils ont plein de projets. Ils ont commencé d'ailleurs. Et puis, ils ont un projet de créer un mur d'eau gelée. En fait, quand on fait comme ça un truc de jeu, de quelque chose de gelé sur 27 mètres hein, de profondeur, ils vont arriver à bloquer l'eau puisque toute l'eau qui va venir cogner contre va se geler et s'arrêtera là. Donc c'est un projet qui va coûter 47 milliards de yens. Tout ça pour essayer de bloquer ces eaux radioactives qui s'échappent quand même bien malgré tout du cœur des centrales. Faut dire qu'on arrose pas mal la centrale, les cœurs de cette centrale. Alors tout au long de l'été, il y a eu ces découvertes de fuites vers la mer. C'est important, hein, j'ai pas donné le chiffre, c'est à peu près 1000 tonnes d'eau radioactive qui se jettent tous les jours dans la mer sans que ce soit prévu hein, du coup. D'où la construction de ce mur d'eau gelée pour essayer de bloquer tout le système. À la fin de la semaine dernière, les autorités de sûreté nucléaire, qui s'appelle la NRA, ont mis en doute le niveau de gravité de l'incident correspondant à ces fuites d'eau qui avait été classé numéro 3 sur l'échelle internationale des incidents. Eux, ils disent qu'il faudrait le déclassifier. En gros, ces autorités de sûreté nucléaire japonaises essayent de minimiser les choses. Ils critiquent notamment TEPCO, non pas sur leur gestion des choses, mais sur leur manière de parler, de communiquer aux médias. Ils disent vous en dites à la fois trop et peut-être pas assez sur certains trucs. Donc du coup, c'est quand même un joyeux bordel dans l'industrie nucléaire japonaise. Un groupe de réflexion d'ailleurs, qui est financé par le ministre japonais de l'industrie, qui s'appelle l'Institut pour l'économie de l'énergie, bosse et a remis un rapport sur la remise en marche des réacteurs nucléaires, parce qu'ils ont quand même ce projet-là. Faut savoir qu'il y avait deux réacteurs qui tournaient hein, depuis quelques mois. Ils ont été à nouveau arrêtés. Donc aujourd'hui, dans Scanu Info, là, on est le 5 septembre, il n'y a aucun réacteur au Japon qui tourne. Donc, ce groupe de réflexion pro-nucléaire, hein, financé par le ministre japonais de l'Industrie, a calculé que s'il redémarrait les réacteurs, il pourrait augmenter de 25% le produit national brut du pays, la richesse produite, et freiner la cause de l'augmentation du prix de l'électricité. Alors, c'est un rapport de propagande hein, pour essayer de convaincre les Japonais que le gouvernement mis en place par Shinzo Abe fait son travail et va redémarrer les centrales, puisqu'il faut savoir quand même que si les Japonais ont voté pour Shinzo Abe, c'est qu'ils veulent le redémarrage des 52 réacteurs. Il faut dire hein, qu'il est toujours, il a tout, toujours clamé son désir de redémarrer les réacteurs. Donc les électeurs, quand ils ont voté pour lui, ils savaient exactement à quoi s'en tenir, ce qui est quand même triste. Ça laisse entendre que le redémarrage de l'économie est plus important que la protection environnementale et la protection des êtres humains, hein, puisque du coup c'est ça indirectement qui est en cause. Donc voilà. Donc la situation est loin d'être stabilisée. On rappelle hein, que c'est, il prévoit de stabiliser définitivement et de rendre le site correct dans 40 ans seulement. Bah oui, c'est pas gagné. Alors sur le nucléaire, parce que tout va mal au pays du soleil levant, mais ça va pas beaucoup mieux chez nous. Un petit incident nucléaire, donc sur un chantier de démantèlement du CEA, de l'ancien commissariat à l'énergie atomique. Ça a changé de nom. Maintenant, ils ont rajouté des énergies renouvelables dedans, mais c'est le CEA traditionnel qui a pas mal d'installations nucléaires, notamment des réacteurs expérimentaux qui les démantèlent au fur et à mesure, puisqu'ils changent un petit peu de corps de métier, le CEA. Donc là, dans un moment un chantier de démantèlement à Grenoble, c'est un salarié de la société Alphadir, qui est censé être spécialisé dans les chantiers nucléaires, qui faisait une opération de tri de déchets radioactifs par tamisage. Donc ils essayent de séparer les radioéléments de manière mécanique, là, du coup. Son dosimètre hein, qu'il a sur sa tenue a émis une énorme alarme. Il l'a pas entendu parce que c'était sur un chantier de démantèlement et qu'il y a beaucoup de bruit. Donc du coup, ça a déclenché une alarme après, quand il est parti, avec mesure de l'impact sur sa santé, puisqu'il a eu en quelques minutes au-dessus des limites annuelles réglementaires autorisées. Donc c'est plutôt grave. Alors certes, Il était habillé d'une combinaison étanche, donc normalement l'impact sur sa santé semble faible, voire inexistant si on suit le communiqué du CEA, mais c'est quand même pas rassurant. D'ailleurs, l'Institut de Sûreté Nucléaire va classer l'incident, puisque c'est quand même un incident et que il va classer d'ailleurs niveau 2 hein, sur les 7 niveaux, donc c'est un incident relativement important pour le salarié hein, qui aurait pu y laisser la peau. Et puis alors dans la série Le Nucléaire, c'est drôle. On va parler du chantier de l'EPR de Flamanville. Vous savez, l'EPR, c'est un réacteur soi-disant de nouvelle génération que Areva essaye de construire un peu partout dans le monde. Alors déjà en Finlande et puis chez nous à Flamanville. Et vraisemblablement, Areva a des problèmes. Ils n'arrivent pas à gérer ce chantier. Soit ils ont perdu de la maîtrise technique, soit je sais pas, soit ils ont pas de bol. Et à pas avoir de chance avec du nucléaire, c'est un peu terrible parce que ça fait du danger potentiel pour plusieurs années. Alors, le chantier a 4 ans de retard, un surcoût de 5 milliards d'euros hein, qui sera payé par EDF quand même. Et le Canard enchaîné a révélé hier qu'une vanne destinée à injecter des additifs chimiques dans le circuit de sécurité avait été montée à l'envers. Alors déjà, c'est pas rassurant, ils sont censés maîtriser leur métier quand même. Et alors, le Canard enchaîné met en évidence qu'il n'y avait aucune personne compétente en tuyauterie pour le montage de ce truc-là. C'est pas bon signe quand même sur un circuit de sécurité, et qu'ils ignoraient aussi qu'il y avait des différences de diamètre entre les orifices. Enfin, voilà une incompétence qui a l'air caractérisée, en tout cas ce qui est dénoncé par le Canard enchaîné. Une documentation peu lisible avec des erreurs dedans, ça fait quand même peur, tout ça pour construire un réacteur nucléaire qui est censé être en route un jour. Donc voilà. Alors il faut savoir que c'est pas la première fois, hein. Il y a eu plein d'incidents du travail, 2 morts hein, sur le chantier, avec condamnation de Buick notamment, qui ne déclarait pas tous les accidents du travail. Ah, bravo, bravo. Voilà, alors ça devait servir de vitrine pour Areva, vraisemblablement ça sert pas de vitrine. Voilà. Donc la news du jour, parce que ça a été déclaré, enfin on l'a appris hier par le Canard enchaîné, la news du jour c'est que le chantier est arrêté à cause de ce problème de tuyauterie. Voilà, il va sûrement être repoussé encore pendant un petit moment. Voilà les infos radioactives du jour.
Moi je trouve que c'est une vitrine qui clignote, hein, au contraire. Il hein, y a vraiment quand même un truc, hein, si on doit faire un jeu de mots avec le nucléaire, ça clignote. Alors on va parler de résistance dans des explorations minières. On va d'abord partir en Suède, en Laponie, précisément à Kallak. Alors c'est un territoire qui est situé sur la commune de Jokkmokk, sans l'accent, c'est sur le cercle polaire. Et c'est une résistance qui est menée par les Samis et les éleveurs de rennes. Il s'oppose au projet de mine de fer de la compagnie britannique Beowulf Mining, toujours avec l'accent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette compagnie, pour s'installer, pour trouver des finances, elle a tenté de faire croire que c'était une région sauvage, avec personne dedans. Juste que bah, les villages des Samis, eux, ils sont bien là, ils sont bien installés. Ça fait longtemps qu'ils sont installés là. D'ailleurs, c'est l'endroit où la culture Sami est la plus importante en Suède. Alors, ils sont, en fait, les Samis installés sur une zone assez large, hein, au nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande. Ils sont aussi sur la péninsule de Kola en Russie. Ils ont des activités traditionnelles. Alors, ils sont éleveurs de rennes, sinon il y a la pêche. Voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'une minorité des Samis qui vivent de ce travail de pêche ou de l'élevage de rennes. Mais c'est une communauté qui est bien présente, qui a une culture. Il faut savoir qu'ils ont maintenant des parlements Samis qu'ils ont tenus en Suède, en Norvège et en Finlande. Évidemment, pas en Russie, hein, pas là-bas. On leur a pas donné cette possibilité. Ça leur a permis de mieux faire entendre leurs revendications. Même si cette opposition n'est pas simple face à, évidemment, à encore un géant dans les mines. Alors heureusement, ils sont soutenus par les écolos locaux. Tous ensemble, ils se sont rassemblés samedi 24 août pour manifester leur opposition. Ils se sont fait charger par la police. Ils ont été délogés. La police a voulu évidemment lever le blocage de la route menant au chantier, puisque les manifestants avaient rassemblé tout un tas d'objets sympathiques au milieu de la route, évidemment pour ralentir le chantier. Alors les écolos, ils se mobilisent contre l'augmentation de l'exploration minière dans toute l'Europe du Nord, et en particulier en Laponie. Il faut savoir qu'il y a une législation suédoise qui facilite l'obtention d'autorisation d'exploration, d'où un certain nombre de chantiers qui apparaissent ces derniers temps. un petit peu de partout en Suède. Alors il faut savoir que le gouvernement a dû expliquer ses priorités à la demande de la justice suédoise, puisque ça a quand même fait un gros pataquès, hein, toute cette affaire. Alors on leur a demandé s'ils préféraient le gouvernement défendre les intérêts de l'industrie minière ou les intérêts des éleveurs de rennes, et qu'est-ce qu'il a répondu?
Le renne.
Pas les rennes, il a préféré l'industrie minière. Il paraît qu'il va y avoir plein de créations d'emplois, qu'il va y avoir des rentrées fiscales, enfin tout ça c'est magnifique, et que le projet minier amenait plus à la société suédoise que l'élevage des rennes. Il faut savoir que depuis qu'il y a les manifestations très importantes depuis le début du mois de juillet, il y a beaucoup de commentaires racistes qui ressortent sur internet. C'est une communauté autochtone qui a toujours été attaquée et qui continue à l'être. C'est bien pour ça aussi qu'ils ont eu un parlement, qu'il y a eu quand même à un moment quelque chose qui est un petit peu apparu en Suède et en Norvège et en Finlande. C'est parce que c'est pas drôle tous les jours. Ils ont été marginalisés, mis de côté, ils sont pas dans des super situations. Voilà, donc c'est une lutte collective qui est extrêmement importante. Et il y a une lutte toujours dans une exploration minière qui elle aussi est très importante. Ça se passe en Roumanie, c'est à Roziamontana, c'est le nom d'un village en Transylvanie. Alors là-bas, c'est une compagnie canadienne, Gabriel Ressources, qui veut exploiter la plus grande mine d'or d'Europe grâce à sa filiale. Donc là, ça fait c'était le troisième jour cette semaine qu'il y avait les manifestations. Alors par exemple, à Bucarest, les manifestations, ils ont bloqué la circulation. Ils se sont fait entendre. Il y a à la fois des étudiants qui se sont mêlés à cette manifestation, des écolos, mais il y a aussi un certain nombre d'artistes, de stars, de célébrités. Donc c'est quelque chose qui fait aussi du bruit en Roumanie. Il faut dire que là encore, c'est un texte adopté la semaine dernière par le gouvernement qui doit encore obtenir l'aval du Parlement, qui facilite les choses, puisque ce texte déclare le projet minier d'intérêt national exceptionnel. Et donc voilà, ça facilite évidemment toutes les procédures pour s'installer et pour faire taire tous ceux qui n'en veulent pas. Et eux aussi, hein, évidemment, ils promettent tout plein de choses. Ils promettent 900 emplois pendant les 16 ans d'exploitation. Ça fait pas tant que ça à l'année quand même, hein. Il faut relativiser. Et puis, ils promettent évidemment d'énormes retombées économiques. Eux, les écolos, qu'est-ce qu'ils craignent, hein? Ils craignent ce qui se passe dans les mines d'or, c'est-à-dire les risques liés à l'utilisation de milliers de tonnes de cyanure. C'est ça, s'il y a bien un truc qui bousille tout, c'est bien ça aussi, c'est bien le cyanure. Voilà, enfin, c'est encore des empêcheurs de tourner en rond, ces écolos. Franchement, le capitaliste, il peut pas faire ce qu'il veut, quoi.
Alors, il y a quelques mois, on avait reparlé un petit peu des problèmes des diesels. Vous savez, ces moteurs qui émettent des particules qui sont responsables d'une partie de ces 50 000 morts, hein, dues à la pollution automobile chaque année en France. Hein. On peut dire qu'ils doivent être responsables à peu près des deux tiers, comme ça, à la louche. Le principal promoteur du moteur diesel est une entreprise française qui s'appelle Peugeot. Est-ce qu'ils ont pris conscience que c'était mal et qu'il fallait qu'ils changent de technologie? Eh bien non, Peugeot adore faire mourir les gens vraisemblablement, puisque Peugeot Citroën, PSA très exactement, va construire une nouvelle famille de moteurs diesel sur un site d'une entreprise qui s'appelle Française Mécanique, hein, qui est une entreprise filiale de Renault et de Peugeot. Donc voilà, c'est pour dire que ils ont prévu, ça se passe à Douvrin, de produire 640 000 moteurs par an. Ces moteurs qui vont émettre des particules et qui vont continuer de tuer des dizaines de milliers de personnes chaque année. Donc merci Peugeot et merci les automobilistes de penser à la santé des habitants et à la santé des enfants, parce qu'on rappelle que 30% de l'asthme des enfants en ville est dû aux particules des diesels. Merci à tous ces gens. Et en plus, socialement, c'est une hérésie. Puisqu'ils ont passé un accord de compétitivité. Et ça, les accords de compétitivité, ça veut dire gel des salaires pour les salariés jusqu'en 2015, suppression des avantages acquis, plus de flexibilité. Alors certains syndicats, CFDT, CFCGC et CFTC, ont signé cet accord. Par contre, bien évidemment, il y en a qui sont moins cons que les autres. La CGT et FO ont refusé cet accord. Donc voilà, la construction de cette le redémarrage de cette usine de la Française Mécanique avec ce nouveau projet de moteur diesel est non seulement une hérésie sociale, mais en plus une hérésie écologique. Peugeot aime vraiment beaucoup le diesel et pas du tout notre santé.
Et puis pour terminer cette page écolo-environnement, je voulais revenir sur le départ d'un journaliste du Monde. Si vous avez l'habitude de lire Le Monde, vous savez certainement de qui je parle. Il s'agit d'Hervé Kampf. C'était un journaliste qui faisait les articles sur l'environnement et l'écologie.
Et puis, contrairement à certains journalistes, lui, il était vraiment écolo. Il avait une belle sensibilité.
Il l'est toujours.
Voilà. Oui, il est toujours. Il est pas mort. Hein. Il s'est juste fait virer.
Il est parti. Mais bon, c'est un peu ça. Parler, ouais.
Ce qu'on peut dire, c'est que lui, il a fait des articles sur la décroissance. Il a écrit un livre qui est très intéressant, ça s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Voilà. Et du coup, tu vas nous expliquer, mais il a été obligé de partir un peu.
Ouais, alors il s'en va après 15 ans et un jour, comme il le dit, du Monde. Je pense qu'il s'en va pas avec le plaisir de la tâche accomplie. Il s'en va parce qu'il a été un peu poussé dehors à force de ne plus pouvoir écrire, tout simplement. Il faut dire qu'd'abord, il avait ses articles et puis après, il a eu plus qu'une chronique, hein, quand même.
Ouais. Et puis c'est Notre-Dame-des-Landes
et
qui a énervé le journal.
Et c'est ça qui a fait chavirer tout le bateau. Le journal, c'est vraiment un journal qui va très très bien, Le Monde quand même. Alors il faut savoir que Hervé Kampf, il avait participé à la création de Reporter, Terre, T-E-2-R-E, c'est un jeu de mots. Il va donc rejoindre Reporter, hein. Il va pas s'ennuyer, il va pas rester à glandouiller chez lui et puis à se morfondre. Il dit qu'il s'en va parce qu'il en peut plus, qu'il a vécu la censure, et en particulier, comme tu le disais, donc Notre-Dame des Landes, c'est-à-dire qu'à un moment, on lui a dit « t'as plus le droit d'y travailler ».
Ouais, c'est ça.
Tout simplement.
On lui a dit, quand il y avait des reportages à faire sur ce lieu donc d'opposition à la construction d'un nouvel aéroport, on lui a fait comprendre que Le Monde prenait position de l'autre côté, en favorisant plutôt l'économique à l'écologie, et que fallait pas qu'il y aille parce qu'il prenait parti. Et qu'il avait un avis. Que, voilà.
Alors, vous pourrez aller lire le texte complet qu'il a fait sur Reporter, hein, sur le site. Vous le trouverez, c'est un très très long à lire. Mais pour vous donner un petit peu quand même le ton, je vais le citer. On me bloquait les reportages, mais aussi les enquêtes sur une affaire où les intérêts économiques paraissaient singulièrement tortueux. En m'interdisant de traiter ce sujet, en refusant de donner écho à ce que je pourrais voir ou trouver dans mes enquêtes, on assumait le fait que Le Monde ne creuserait pas le dossier de Notre-Dame-les-Landes. C'était de fait une censure. Plus tard dans le texte, il dit « Plus tard, des indices concourants me firent penser que l'hypothèse de pression d'un propriétaire sur le journal à propos de Notre-Dame-des-Landes était pensable. Ce sont des indices, pas des preuves. » Il explique après, je les publierai si cela paraît nécessaire au public. Voilà, il faut dire que bon, il raconte un peu, hein, des échanges qu'il a eu avec le patronat du Monde, la manière dont on lui a causé, dont on lui a enlevé un petit peu à chaque fois, c'est sa plage de travail. Donc voilà, il raconte aussi les petites affaires un petit peu louches du Monde, comment ils organisent des choses avec des entreprises. Voilà, c'est pas rageur non plus, hein, c'est assez propre comme texte. Voilà, on lui souhaite quand même une bonne route, mais ça fait du Monde un journal de moins en moins intéressant quand même.
Ouais, non, mais on n'avait pas d'espoir. Hein.
Non, mais merde, quoi, quand même.
Droit déjà depuis de nombreuses années. C'était peut-être le seul à faire une rubrique un peu décalée, quoi. Donc,
mais
du
on
coup,
sent quand même que sur l'écologie, c'était quelque chose qui pendait au nez, hein, des journalistes d'investigation qui étaient un petit peu en plus avec des idées comme Hervé, c'est-à-dire c'était le dernier secteur, et puis oui, ça touche au capitalisme. On commence aussi à se débarrasser maintenant des gens qui commencent à gêner, parce qu'ils ouvrent trop leur gueule ou qui racontent des choses qui sont peut-être un peu trop vraies aussi.
Voilà, donc la censure dans une démocratie capitaliste, ça existe, c'est juste beaucoup plus sournois qu'en Syrie, en Tunisie ou ailleurs. Du coup, on fait un petit agenda avant de laisser la place à Bivouac, qui est bien là. Il a galéré un peu, il y a eu des saboteurs sur son vélo pour l'empêcher de venir, mais il est fort, il gonflait sa roue en soufflant dedans pour venir. Il y est arrivé jusqu'ici, tout à l'heure, dans 3 minutes, Bivouac. Sabotage, comme il le dit. Donc, en attendant un petit agenda, moi j'ai juste une info pour cette semaine. C'est mardi, journée de grève pour défendre nos retraites, donc toute la journée, et le lieu de manifestation, c'est devant la manufacture des tabacs que partira la grosse manif à 10h30 mardi matin.
Oui, non, et puis juste pour préciser, donc à partir de la semaine prochaine, vous pourrez retrouver dans les Canu Info du jeudi en première partie des interviews, des reportages effectués au mois d'août en Israël et en Palestine. Alors par exemple, on a rencontré Sarit de Betselem, Rouloud d'Hébron France, Ethan de Zohot, j'arriverai jamais à dire le nom de cette organisation, Koussaï d'Ibda, Mélanie de Pisnao. Voilà, on vous fera un petit peu découvrir ce que les gens avaient à nous raconter sur la situation, évidemment, sur le conflit, sur la réalité de vie aussi. Voilà, ça va durer 5-6 semaines parce que bon, on a plein de choses à raconter en fait.
Voilà, et c'est un voyage difficile.
Oui.
Si vous partez là-bas, ne terminez pas en allant voir Hébron, parce que après, ça vous met de mauvaise humeur. Voilà, c'est le conseil qu'on peut vous donner.
Voilà, et on en
profitera. La situation est trop horrible.
À chaque fois, pour évidemment vous ajouter quelques informations supplémentaires, par exemple sur le travail en Israël, sur l'immigration, sur les migrants, les clandestins, sur la police, enfin voilà, tout un tas de petites choses pour accompagner ces interviews que nous avons réalisées cet été.
Voilà, on vous rappelle que le Kenya Info, c'est tous les jours de la semaine, 19h-20h, que vous pouvez nous retrouver sur Internet de deux manières. Écoutez le Kenya Info du jour sur le site de Rebellion, et sinon sur les blogs des Kenya Info, vous avez les Kenya Info qui sont disponibles pendant de nombreuses semaines pour les réécouter. Donc voilà, tout de suite, d'ici quelques secondes, il lui reste 25 secondes, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait prêt, le camarade de bivouac. Ça y est, je le sens, il trépigne d'impatience. Je suis obligé de meubler parce que je ne veux pas relancer la bande continue pour 20 secondes, donc du coup il arrive. Attention, est-il prêt? Oui, il glisse le jack dans son appareil moderne pour lancer le générique. 5, 4, 3, 2, 1, bivouac.
Au quatrième temps, il sera exactement...